France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, bienvenue à Sophie Darel, qui fut la filleule artistique de Mireille au Petit Conservatoire, puis la partenaire de Guy Lux dans les émissions populaires où se succédaient les plus grandes vedettes. Mais Sophie Darel est aussi une imitatrice irrésistible, une actrice régulièrement à l'affiche et l'auteur de livres de recettes pour ne pas vieillir. Elle sera auprès de moi dans quelques instants. Profitez-en, vous qui êtes au volant ce samedi sur la route des vacances. Quant aux autres, surtout, n'oubliez pas votre cheval.
Coiffée d'un large sombrero, vêtue d'une veste à carreaux et chaussée de bottes légères. Hier, dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tangpita et d'abordage. Mais les petits-enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient grand-père, ce beau pré, c'est-il amer ou Maison Lafitte? Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval, vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire, et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment t'as plutôt, vous avez connu grand-mère, comment à Paris, le soir du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer, vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval. Cheval. Grand-père.
N'oubliez pas votre cheval, une des plus étranges et des plus réjouissantes chansons de la série mythique d'enregistrement réalisée par Trainé avec l'orchestre Valberg en 1938. C'est l'occasion d'ailleurs de vous signaler un passionnant documentaire sur Charles Trainé à découvrir vendredi prochain à 21h sur France 3. Il est signé Philippe Colli et je vous le recommande d'autant plus que les programmes consacrés aux artistes de cette époque sont trop rares malgré les merveilleuses archives dont nous disposons. Il paraît même que les programmateurs et les financeurs sont de plus en plus réticent à évoquer ces grandes figures dans notre époque qui a décidément la mémoire courte et ne comprend pas toujours la légèreté du fou chantant.
Thank you.
pas la main, s'il vous plaît. Entrons danseux, elle ne pas danser. Le menu et c'est la polka du croix. S'achève la polka du roi.
Loé !
Ah oui, ça c'est un traîné très déjanté, mais les spécialistes auront reconnu le style inimitable d'André Pop, donc dans cette polka du roi. Je vous rappelle à ce sujet, donc une nouvelle fois, Charles Trenet, l'Enchanteur, un documentaire de Philippe Colli, vendredi 19 à 21h sur France 3, un documentaire à ne pas rater. Et puis à propos de grands chefs d'orchestre, après André Pop, moi je vous proposerai la semaine prochaine d'évoquer l'excellent Paul Bonneau avec son fils Christian Bonneau.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité qui fut vedette de la chanson dans les années 60, grande vedette de la télévision dans les années 70, et puis depuis elle est montée beaucoup sur les planches où elle joue encore régulièrement, sauf en cette période un peu particulière. Elle a également signé plusieurs livres et elle est venue ce matin nous rendre visite. J'ai la joie d'accueillir Sophie Darel.
Demain, nous sommes tous du même voyage, chacun à bord de son navire, pour aller vers d'autres rivages et se forger un fleurir tous nos printemps, et même si parfois la tempête détruit ce qu'on nous a promis, il faut que rien ne nous arrête et rebâtir une autre vie.
et de soleil. Voilà,
voilà, c'est Sophie Darel qui chante. Bonjour
qui
Sophie
chante,
Darel.
Je chante sur moi-même, c'est incroyable. Écoutez, franchement, bonjour, ravie d'être avec vous de nouveau. C'est un plaisir la dernière fois, donc voilà, je suis très heureuse.
Ben moi aussi, je vous avais dit, vous voyez, il faudra
c'est
qu'on
mais c'est
creuse
rare,
un peu le
sujet. Mais c'est rare, les promesses
hein.
dans le showbiz, alors, mais vous n'êtes pas vraiment showbiz, c'est pour ça.
Quant à La Place au Soleil, c'était une chanson qui avait bien marché en 1972. Elle avait failli concourir à l'Eurovision.
À l'Eurovision, oui, j'ai failli représenter la France. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est... Vu que ça date aussi d'un certain temps, je ne me souviens plus du tout pourquoi ça ne s'était pas fait.
Ben oui, mais c'était un temps où la France gagnait encore.
Alors oui, c'est dommage, j'avais fait une chance.
En tout cas, on peut dire que La Place au Soleil, quand cette chanson est sortie en 1972, vous aviez une grande place au soleil. Parce que vous aviez déjà derrière vous, si j'ose dire, 10 années de chansons. Mmh. Et puis vous étiez en train d'entrer avec beaucoup de succès dans le monde de la télévision auprès de Guy Lux.
Ben oui, c'est vrai, puisque j'ai démarré dans les années 71 auprès de Guy. Voilà. Je n'ai pas remplacé Anne-Marie Pesson, contrairement à ce qu'on croit. Anne-Marie, c'est encore avant, c'était le palmarès. Ouais. Moi, j'ai remplacé une journaliste qui s'appelle Jacqueline Alexandre. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que ma vie a tout d'un coup changé en 15 jours parce qu'il y avait.
Parce qu'on est beaucoup plus célèbre en passant à la télévision à l'époque qu'en faisant des chansons.
Bien sûr.
Évidemment. Ça change tout du jour au lendemain.
Ça change tout. Bah oui, moi j'étais dans les foyers toutes les semaines à 20h30. Hein, donc voilà.
Voilà. Mais votre place au soleil, Sophie Darel, ce qui me plaît, c'est qu'aussi vous avez su. Eh ben, la renouveler, vous avez eu la place de chanteuse, celle de personnage de la télévision, et puis celle d'imitatrice, et puis celle d'auteur, et puis celle d'actrice. Et finalement, vous avez cette capacité de vous renouveler au fil du temps qui est plaisante.
Oui, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'en France, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'avoir plusieurs casquettes.
Ah bon, il vaut mieux d'en avoir qu'une.
Ben oui, parce que sinon, on ne sait pas trop dans quelle catégorie vous classez. Donc, c'est comme ça pour tout le monde. On a toujours besoin d'être classé dans une catégorie. Alors moi, maintenant, je suis beaucoup plus connue en tant que présentatrice et animatrice de télévision. Et sinon, chanteuse, y a plein de gens qui n'ont jamais su que je chantais. Les imitations, en revanche, plus parce que j'ai fait pendant 4 ans Patrick Sébastien, où je faisais des imitations. Donc là, ça a été plus évident pour le public.
Mais la chanson garde peut-être une place un peu privilégiée dans votre cœur et dans votre vie, non ?
Ah, moi, j'adore chanter. De toute façon, je ne peux pas me passer de musique. Il y a toujours de la musique à la maison, à tel point qu'on me dit de temps en temps, tu sais que c'est bien le silence aussi. Moi, j'adore la musique en général.
Il faut dire aussi, Sophie Darel, je veux dire, vous n'avez pas eu de chance cette année, mais qui a eu de la chance cette année, je vous demande bien, puisque vous aviez une pièce à l'affiche, on en redira peut-être un mot tout à l'heure, Les Trois Glorieuses, avec vos amis Evelyne Leclerc et Daniel Gilbert.
Absolument, oui.
Et puis, patatras, trois présentations.
Pandémie.
C'était il y a un an. Hein,
voilà. Exactement, ça fait un an que je ne suis pas montée sur scène. Ça ne m'était jamais arrivé de toute ma vie, parce que je suis sur scène depuis l'âge de 16-17 ans.
Ah oui.
Et j'ai toujours fait ce métier, ou en étant à la télé, ou en étant au théâtre, ou en étant en spectacle. Et là, depuis un an, je n'ai pas mis les pieds sur une scène. Donc
et
ça fait bizarre.
Vous comptez bien reprendre toutes les trois ?
Eh bien, on espère bien, parce que ça avait un succès incroyable. C'est-à-dire que les gens, enfin le public, bien sûr, ce n'était pas des adolescents. Les gens d'une certaine époque étaient vraiment heureux de nous retrouver.
Voilà. Avec un sujet amusant, puisque c'est une chaîne qui ne marche pas bien.
Voilà.
Et qui fait appel à d'anciennes présentatrices.
Voilà, pour leur disant qu'elles vont faire
relancer.
Un prime time, comme on dit aujourd'hui.
Sauf que vous êtes toutes les trois en concurrence.
Et on ne le savait pas. Donc quand on apprend qu'on est toutes les trois en concurrence, effectivement. Non, mais la pièce est très drôle et ça marchait formidablement bien. On a répété deux mois et demi, on a joué trois fois. Voilà.
Bon, espérons que ça va reprendre bientôt. En tout cas, Sophie Darel, merci encore d'être avec nous ce matin.
Avec plaisir.
On va replonger quelques instants avec la musique dans votre tendre enfance. Thank you. Petite rêverie d'Alexandre Tansman, jouée à la harpe par Madame Lily Laskin.
Oh là là, que de souvenirs.
C'est vrai, Sophie Darel, ça vous évoque des souvenirs,
ah,
Lily Laskin.
C'est très émouvant, parce que quand j'étais petite, j'ai eu la chance de visiter, parce que mes parents connaissaient quelqu'un qui était directeur du Théâtre des Champs-Élysées. Et il avait dit à mes parents si elle est sage et tout ça. Et moi, déjà à l'époque, j'avais besoin de sentir l'odeur des théâtres. Ouais. J'ai toujours eu envie de faire ce métier. Il avait dit à mes parents, je pourrais lui faire visiter le Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé cette odeur du Théâtre des Champs-Élysées que j'adore. Ouais. Et donc, j'étais dans la salle et il y avait Lily Laskin qui répétait. Et puis bon, moi, j'étais toute sage dans mon coin et tout. Puis à un moment donné, elle me dit, mais tu veux que je joue que pour toi?
C'est pas mal, hein.
Et ça, pourtant, c'est effectivement un souvenir un peu lointain, il faut bien le dire, mais ça m'a vraiment marqué. Il y a beaucoup de tendresse et d'émotion dans ce souvenir, parce que c'était magique, quoi.
Vous avez grandi, Sophie Darel, on peut dire, dans le Paris d'après la guerre.
Hein, oui, bien sûr.
Avec
oui.
Une famille qui était tournée vers les arts ou
non,
pas du tout.
Non, mon père était ingénieur, ma mère était, comme on disait à l'époque, femme au foyer.
Ouais.
Donc voilà, mais j'ai eu beaucoup de voisins qui étaient dans le showbiz. Puis moi, j'ai toujours voulu faire ce métier.
Ah, c'est apparu très tôt.
Ah, très tôt, comme quoi c'est vraiment une vocation, réussie ou pas. Mais en tout cas, c'est une vocation, puisque même toute petite, on me demandait de chanter sur les tables. Ah, je faisais Piaf et tout ça, donc... Déjà sur les tables à l'époque.
Vocation encouragée ou découragée par la famille?
Encouragée parce que mon père avait voulu être chanteur. Il avait fait plein de concours de chansons. Il était tellement timide que chaque fois qu'il devait chanter en public, enfin pour ses concours, il prenait beaucoup de Mirabelle parce que ça le décontractait. Il s'est dit que c'était pas une solution.
Pas le fruit. Hein,
Non, pas le fruit. Enfin, c'est du fruit aussi.
C'est du fruit aussi, oui. Et donc, vous êtes finalement donc entrée au conservatoire
oui.
Pour suivre cette
Alors,
vocation.
Alors, je ne suis pas entrée, reprenons tout depuis le début, j'aurais bien aimé. Disons que j'ai préparé le conservatoire, c'est-à-dire que j'ai travaillé tous mes classiques. Voilà, et j'ai adoré. C'est vrai que ça donne une belle formation de travailler ces classiques. J'ai pris beaucoup de cours de comédie. Et puis après, ça m'a un peu embêtée. C'était très compliqué de faire de la comédie. Après, pour faire un petit rôle, dire une phrase, il fallait passer des auditions, ça durait des heures. Oh, moi, je me suis dit, j'ai envie d'être tout de suite sur scène. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée très vite dans la chanson, où je chantais des poèmes de Rimbaud, où je chantais du Trainet, des choses comme ça.
Et je crois que vous avez d'ailleurs été encouragée par le grand monsieur de la chanson de l'époque, qui était Raoul Breton.
Ah oui, j'ai connu
le patron des
la marquise.
Et la marquise, sa femme, voilà.
Dont Jean-Jacques Debout parle tout le temps.
Très, très bien, d'ailleurs.
On était
Il était
ensemble.
Coursier à l'époque.
Voilà, on était ensemble. Moi, j'essayais de chanter un peu, et lui faisait déjà des chansons et tout ça.
Ouais.
Donc, on s'est connus là-bas. Et ce sont des endroits qui n'existent plus. Ouais. Parce que les éditions Breton, les jeunes chanteurs se retrouvaient là. Il y avait toujours un piano, un très beau piano. Et donc, il pouvait y avoir même Charles Trenet, des stars comme ça qui venaient tout d'un coup. Et j'ai des photos chez moi qui
Chacun
datent de cette époque où Charles Trenet est au piano et où je fais un bout de chanson avec lui. Alors que là, aujourd'hui, je ne sais pas si avec Maître Gims et tout ça, ça pourrait se passer de la même façon, je ne suis pas sûre.
Voilà, oui, les fameuses éditions
voilà,
Breton.
Voilà, les éditions Breton.
Et c'est lui qui vous a poussé vers le petit conservatoire.
Alors, il m'a vraiment encouragée. Il
oui.
m'a dit, vous ferez forcément carrière. Bon, évidemment, il ne savait pas comme la vie allait changer plus tard et le showbiz aussi.
Ouais.
Mais Raoul Breton m'avait dit, je suis sûre que vous allez gagner votre vie, que vous allez réussir dans ce métier, j'en suis certain. Il m'avait fait cette promesse. Puis après, bon, c'était en dehors de lui. J'ai rencontré, comme on disait, Madame Mireille.
Madame Mireille.
Là.
Et je vous propose d'ailleurs qu'on vous retrouve tout de suite, toutes les deux, dans un des petits conservatoires.
Ah ouais.
Alors, il y en avait qui étaient filmés, d'autres qui étaient seulement à la radio.
Ah oui. C'était une espèce de cours où on allait, voilà. Effectivement.
Et celui-ci date de 1962.
Comme le premier dimanche de chaque mois, France 4 vous invite à écouter Le Petit Conservatoire de la Chanson de Mireille, une émission consacrée au perfectionnement des jeunes auteurs, compositeurs et interprètes professionnels de la chanson. Accompagnement musical par Robert Valentino, chef opérateur du son Jacques Boisse, assistante Catherine Joubert, réalisation Georges Godbert.
Mademoiselle Sophie Darel.
Madame Mireille, vivi.
Vous avez un joli chapeau et moi aussi.
Oui, j'ai remarqué que vous avez un joli chapeau, oui. Vous n'avez jamais vu un cachapot, ça vous va bien.
Mademoiselle Sophie Darrel, est-ce que la chanson que vous allez nous présenter est dans le disque?
Oui, oui, je l'ai enregistrée
dans le dernier disque. C'est celle que vous préférez, puisque c'est celle que vous avez.
Oui, oui. Enfin, c'est pas celle que je préfère, il y en a une de Comté que j'aime
beaucoup
aussi.
Qui vous va bien? Comment s'appelle celle-ci?
Ça s'appelle Une fille pleurait, c'est d'Alain Barrière.
Ah oui.
Oui.
Bien, mademoiselle.
Voilà, madame.
Vous la savez bien, puisque vous l'avez enregistrée.
Oui, je la sais à peu près, oui. Je n'ai jamais chanté sur scène, mais enfin, je la sais.
Ben, vous allez la chanter comme si vous étiez au cabaret. Bon.
Une fille pleurait pour ses 20 ans, pleurait pour tout le temps qu'elle avait effacé. Une fille pleurait sur un roman, le bel amour rêvé. Une fille pleurait pour ses amours, pleurait pour tout l'espoir qu'elle avait mis autour. Une fille pleurait dans le printemps, des larmes de 20 ans. Une fille pleurait, pleurait, ses amours insensés. Une fille pleurait, pleurait, ses beaux jours envolés. Elle a couru, couru dans le vent, chercher le bel amant dont elle avait rêvé. Elle a crié, crié dans le vent, le nom du bien-aimé. Mais jamais du plus profond du bois, l'écho tant attendu ne lui a répondu. Et sa voix s'est perdue dans le vent, comme elle était venue. Une fille pleurait, pleurait, ses amours insensés. Une fille pleurait, pleurait, ses beaux jours envolés. Quand l'amour vient un jour en ami, avec ses faux airs de paradis, on le croit, on croit tout dans la vie, on le guette, il s'enfuit. C'est la nuit. Une fille un jour fut retrouvée près du petit sentier, juste à l'orée du bois. Et ses longs et blonds cheveux faisaient comme une croix. Elle est partie sans le grand bonheur, sans le trop grand amour qu'elle avait dans le cœur. Elle est partie pour un grand pays, le nôtre. Et si petit, une fille pleurait, 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 pleurait.
C'était le 1er février 1962. Vous vous rendez compte, ça fait presque 60 ans.
Oh, je vous en prie. Pourquoi vous voulez me faire de la peine? Je suis à peine arrivée et déjà, il est désagréable avec moi.
Mais non,
je n'étais qu'une enfant.
Darrel, vous êtes incarné l'éternelle jeunesse. Vous avez écrit là-dessus.
On va dire ça. Mais ça, c'est très amusant. Enfin, pour moi, c'est incroyable d'entendre jamais écouter ce document. Donc, vraiment, je le découvre.
Chez Mireille, vous avez appris des choses au petit conservatoire?
Honnêtement, on n'apprenait pas grand-chose.
C'était plutôt un spectacle.
Mais c'était un spectacle, puis on se retrouvait tous, on chantait, enfin, c'était un moyen de s'exprimer, c'était très sympa, j'avais plein de copains là-bas, enfin, on adorait se retrouver, je crois que c'était toutes les semaines, mais un cours, pas vraiment, bon, j'ai été étonnée d'ailleurs qu'elle ne m'ait pas arrêtée dans ma chanson, parce qu'en général, c'était « Mademoiselle, je n'ai pas compris, vous articulez très mal, pouvez-vous recommencer ?» Parce qu'elle avait dit à Palmade qu'il articulait pas bien et qu'il ne pourrait pas faire carrière.
Pierre Palmade,
oui.
Il a fait aussi le petit conservatoire.
Oui, absolument.
En tout cas, c'est agréable de vous retrouver comme ça, mais d'autant plus que vous avez quand même eu une sympathie forte avec Mireille, puisque elle a été c'était la tradition à l'époque, votre marraine pour vos débuts dans la chanson.
Mais c'était un personnage exceptionnel, Mireille. C'était quelqu'un, je ne sais pas si on peut retrouver aujourd'hui quelqu'un comme ça. Bon, en plus, elle était mariée
avec Emmanuel Berne.
Emmanuel Berne, etc. Bon.
Vous êtes allé chez eux au Palais Royal?
Ah oui, oui, je suis allée plusieurs fois chez eux, bien sûr. Ah, oui. Et j'adorais Madame Mireille et tous les gens qui. Je l'appelle encore Madame Mireille, c'est rigolo, c'est resté quand j'étais minette. En plus, je trouve qu'elle avait un talent, mais les chansons qu'elle a écrites ne sont absolument pas démodées.
Non, c'est vrai.
C'est formidable, les chansons de Madame Mireille. Vraiment, bon, si on dit Madame Mireille et j'en ai un aujourd'hui, évidemment, pour une nouvelle génération, on va se demander de quoi je parle. Mais
oui,
ça existait et c'était vachement bien.
Encore que Jacques Dutronc et Françoise Hardy ont prouvé que ces chansons, on pouvait même les reprendre.
Françoise est restée très fidèle à Mireille. Mais voilà. Vraiment, hein, c'est vrai.
Alors donc, c'était le chemin l'époque. Hein, il y a eu le Petit Conservatoire et puis il y a eu, à peu près au même moment, la tournée des cabarets.
Oui, non, ben ça j'en ai
la Rive Gauche, vous en avez fait plein.
J'ai pas arrêté de faire des cabarets.
Plusieurs chaque soir.
Non, moi j'en ai jamais fait plusieurs. D'abord parce que j'étais très jeune et mon papa m'accompagnait, il m'attendait.
Ah bon ? Ah oui.
Parce qu'il voulait pas que je rentre toute seule. Donc, non, après, si vous voulez, le fait de faire plusieurs cabarets le soir, ça a été souvent des artistes qui bon, et c'est pas du tout critiquable, bien au contraire, avaient besoin de faire plusieurs cabarets
pour ramasser de l'argent.
Voilà, exactement. Que moi, bon, ben moi, c'était vraiment juste pour le plaisir de chanter. Heureusement d'ailleurs, parce que vu ce que je touchais, il y avait pas de quoi faire vivre la famille.
Vous avez chanté donc rue Jacob à l'échelle de Jacob.
Oui, bien sûr.
À la Villa d'Est.
La Villa d'Est.
C'était
oui.
Où la Villa d'Est?
Ah, ça, c'était aux Champs-Élysées. C'était juste aux Champs-Élysées. Je sais même plus, mais j'en ai fait.
À l'Écluse.
Voilà, j'en ai fait plein. L'Écluse, oui, avec Barbara.
Avec
là
Barbara.
Où j'ai rencontré Barbara. Ouais. Et après, j'ai fait avec Barbara un spectacle aussi au cabaret, dans un cabaret qui s'appelait La Tête de l'Art.
Ah oui, bien sûr, qui était aussi un endroit important.
Mais après, j'avais déjà démarré à la télé, et c'était La Tête de l'Art. Malheureusement, ça n'existe plus. C'était un endroit, entre guillemets, un peu chic, mais il y avait tout Paris qui venait. C'est-à-dire que quand on chantait là, on savait que plein de gens de la profession allaient venir vous voir, quoi.
Et alors, où est-ce qu'il vous a entendu, Jacques Brel?
Alors, Jacques Brel m'a entendu dans un cabaret, à la montagne, où j'avais un ami...
Montagne Sainte-Geneviève?
Oui, mais pas tout à fait. Où j'avais un ami, Jean Valton, qui m'avait dit, si tu veux, tu pourras chanter. Bon, j'étais contente dès que je pouvais chanter. Sauf que là, j'avais décidé de chanter dans ce cabaret une chanson de Brel. Vous voyez, il ne faut pas hésiter. Il était là dans la salle. Et après coup, je me suis dit, mais je suis folle ou quoi? Jouer les Flamandes devant Jacques Brel. Il faut vraiment être inconscient. Et en fait, après, il m'a dit, c'est la première fois qu'une fille, je ne dirai pas de gros mots, ne m'ennuie pas sur scène. Ce qui était quand même pas très sympa pour les autres. C'était sans doute un moment d'euphorie.
Oui.
Et il m'a engagé donc dans la première partie qu'il faisait à Bobino.
En 1961.
Voilà. Où là, je n'étais pas non plus très rodée, où j'ai eu des critiques épouvantables avec des journalistes qui disaient quelle est cette nafette en première partie de Jacques Brel.
Tiens, on va retrouver justement Jacques Brel en cette même année, 1961, dans une de ses belles chansons de l'époque.
Aïe, Maric, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Maric, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand. Zonderliefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonderliefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonderliefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, le ciel flamand, pesait-il te rond de Bruges à Gand. Ai, Marieke, sur tes 20 ans, que j'aimais tant de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude harde. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het land over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, reviens le temps, reviens le temps de Bruges à Gand. Ai, Marieke, revienne le temps où tu m'aimais de Bruges à Gand. Ai, Marieke,
Jacques Brel en 1961, l'année où vous faisiez donc sa première partie, Sophie Darrel à Bobino. Là, c'est évidemment avec le sublime orchestre aussi de François Robert, hein, c'est quand même pas mal.
Tout était formidable, l'orchestre, vous, Brel était incroyable.
Vous regardiez le spectacle, vous regardiez Brel chanter après avoir vous-même chanté
sûr,
là.
Bien sûr, tout le temps. Oui. Bon, ça je l'ai fait 2 ou 3 fois, je l'ai fait pour Claude François, parce que je suis partie, avant de faire de la télé, je suis partie en tournée avec Claude François, et tous les soirs, il se passait quelque chose. C'est-à-dire que je regardais non seulement les filles qui se déchaînaient et tout ça, mais après, il réglait des comptes sur scène. C'est-à-dire qu'il venait avec sa petite robe de chambre, et il disait, musicien, toi, t'es mauvais, toi, t'es remplacé, toi, tu faut que tu fasses autre chose. Et tous les soirs, je regardais ça, parce que je me disais, mais c'est incroyable qu'on puisse dire des choses comme ça après un spectacle. Et puis Becco aussi, parce que Becco... J'avais une admiration folle pour Becco. C'était des gens qui avaient une folie. Voilà,
bête c'est de ça. Scène aussi.
Voilà, exactement.
Et Brel, alors, c'était quoi ce qu'il y avait de spécial?
Brel, il y avait une émotion, il y avait quelque chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a peu d'artistes, enfin de stars qui ont eu tellement de succès, où il était parti, il était en coulisses, il était en train de se reposer. Et ça, je l'ai vu, et les gens ne partaient pas.
Ah oui.
Ils ne partaient pas. Il restait dans la salle. C'est le côté, on va éteindre, on va aller se coucher. Et lui, il était à un moment donné obligé de revenir, épuisé, en disant je ne peux plus, je ne peux plus. C'était magique, quoi. J'en ai des frissons quand je le raconte parce que c'était extraordinaire.
Vous êtes parti en tournée aussi?
Oui, je suis parti en tournée. J'ai fait quelques spectacles avec lui. Mais j'étais pas prête du tout. Je faisais des poèmes de Rimbaud. Je faisais des chansons
de Mireille. Vous étiez une chanteuse rive gauche, presque de gauche.
Ah oui, absolument. Pas loin, absolument.
Toute la poésie
engagée.
Après,
j'ai travaillé avec Guy Lux. J'ai pris un autre virage. Mais beaucoup plus efficace. Donc, c'est vrai que c'était formidable. Mais je connaissais mal mon métier, quoi.
Vous connaissiez mal votre métier, mais en même temps, quand j'étais frappé de voir que vous avez quand même, dès 1960, enregistré pas mal de disques, hein, beaucoup de titres. Les 45 tours se sont succédés les uns après les autres.
Oui, c'est bizarre, mais pas la scène. Enfin, après, j'ai fait beaucoup de cabaret, mais j'avais pas fait trop de scènes. En fait.
Vous avez eu en plus des très bons chefs d'orchestre. Je le notais, par exemple, Jean Lexia, par exemple, dans vos premiers 45 tours, Jean Bouchetti dans d'autres. C'était des très bons musiciens. Et alors, ça m'a amusé parce que j'ai retrouvé aussi un disque. Alors, comme il vient de nous quitter, je me suis dit que c'était peut-être une façon de lui rendre hommage avec une chanson de Claude Boline que vous avez enregistrée en 1965.
Ça, alors j'ai enregistré une chanson de
Claude Boline. Orchestre.
Bien fait de venir quand même. Vous me racontez ma carrière, donc c'est quand même intéressant.
Ah, et ça s'appelle, en plus elle est amusante, ça s'appelle « Il y a quelqu'un dans ma vie ».
Ça me rappelle quelque chose.
Croyez mon ami qu'il m'en coûtait de vous voir malheureux par moi. Je vous aurais aimé sans doute si je n'aimais déjà François. Je n'ai pas une âme de pierre, vous êtes plutôt à mon goût. Et si je devais tromper Pierre, j'aimerais que ce soit avec vous. Prenez-le comme il faut le prendre, je n'en parle que pour parler. Mais si je trompais Alexandre, c'est vous que je viendrai chercher. Ma passion vous serait chaude, vous m'attirez vraiment beaucoup. Si je devais tromper Jean-Claude, j'aimerais que ce soit avec vous. Manquais à la confiance que m'a toujours porté Jean-Loup. Je partirais bien en vacances, 3 ou 4 jours avec vous. Je voudrais être assez folage pour accepter de votre part cette invitation au voyage, mais je ne peux pas trahir Bernard. Sachez qu'en restant inflexible, je vais contre une douce envie. Mais notre amour est impossible, il y a quelqu'un dans ma vie. Ne vous en rendez pas malade et n'en soyez pas offensés. Nous serons de bons camarades, mais pas plus, je suis fiancée.
toujours belle mentalité.
Voilà, hein, légèrement perverse les paroles, hein, là, Sophie Darel.
Là, à l'époque, c'était quand même gonflé de faire ça.
Mais oui, mais c'était un peu...
Mais
c'était
c'est
dans,
rigolo.
En 1965, donc avec marrant. L'orchestre de Claude Bolling, il y a quelqu'un dans ma vie, un de vos 45 tours, Sophie Darel. Et oui. En fait, ça correspond, parce que je regardais, il y a beaucoup d'articles de journaux à l'époque qui parlent de votre carrière naissante. Et alors, il y a un article qui est titré... Pas si ingénu. C'est que vous aviez l'air ingénu, mais en fait, vous aimiez bien les petits rôles un petit peu impertinents,
ça,
etc. C'était
ça
votre emploi, non ? C'était votre marque. Je ne sais pas.
Non, mais c'est amusant parce que, effectivement, c'était quand même très prude. De même que quand j'avais fait un de mes premiers disques qui était Avec la bouche, avec le doigt, qui était une chanson de Vidalin et Jacques Dattin. Bon, bah, c'est vrai que c'était à double sens, mais c'était quand même deviner ce que je fais avec la bouche, avec le doigt, quoi. Voilà.
Voilà, c'était ça, vous. C'était la petite jeune fille qui a l'air si ingénue libertine. Voilà. Ben, voilà, vous avez tout résumé, Sophie Darel. En tout cas, voilà, c'est,
alors,
on
c'est
peut
marrant,
dire, 10 ans de chansons qui ont été couronnées de succès.
Plus ou moins,
de petits succès,
eu de
moyens succès.
Tubes, mais ça passait beaucoup en radio. J'étais aimée par les programmateurs, en fait. Je passais beaucoup à la radio, ouais. Mais pour les ventes, j'en sais rien, je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas fait des ventes extraordinaires.
Fortune.
Sinon, je l'aurais su. J'aurais eu des sous et là, j'en ai pas eu. Donc, ça n'a pas marché tant que ça.
Mais alors, comment est-ce que tout d'un coup, après ces 10 années, arrive la télévision et en l'occurrence, Guy Lux avec son émission Cadet Roussel, la première, je crois, que vous avez
fait ensemble. Les Étoiles de la Chanson.
Les Étoiles de la Chanson en 1971.
Voilà, exactement. Ben, parce que je suis allée faire là aussi un spectacle dans un cabaret à Megève. C'est Jean Valton aussi qui m'avait dit « viens » et tout ça. Donc j'étais passée en première partie de son spectacle à lui. Et dans la salle, il y avait tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait la coproductrice de Guy Lux, il y avait Pierre Chédonia, il y avait Claude Brasseur, il y avait que des gens.
Mais Jeff, c'était la station parisienne
voilà,
par excellence.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Et donc j'ai fait un spectacle d'imitation, puisqu'à l'époque je faisais déjà des imitations. Et puis, comme toujours, quand on démarre dans le métier, évidemment, j'ai eu un succès fou, quoi. Ça a été un triomphe. Et Jacqueline Dufaurès m'a dit...
C'était qui ?
Jacqueline Dufaurès, pardon, c'était la coproductrice de Guy Lux. C'est elle qui programmait. Donc, elle est venue me voir. Elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes rencontrer Guy Lux, parce qu'avec sa présentatrice actuelle, ça va pas trop bien, etc. Enfin bon. Donc, je suis allée, effectivement, la semaine d'après, faire un titre avec le grand orchestre de Raymond Lefebvre. Grande trouille et grand orchestre et tout, déjà, 40 et quelques musiciens. Et puis, ça s'est bien passé. Et Guy Lux m'a dit, la semaine prochaine, c'est toi qui présente. Boum. Alors là, évidemment, ma première présentation, j'étais complètement tétanisée, quoi, en direct absolu, sans répétition, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des jours et des jours de répétition. On arrivait le matin, on voyait le déroulement, et puis avec Guy Lux, il ne fallait pas trop traîner, quand même. Ouais. Voilà, c'est toi qui
fais ça.
C'était
le patron, hein.
Ah, ben, c'était le patron. Puis c'était un grand, grand professionnel. Et comme on n'avait pas de temps à perdre, ben, quand on démarrait là-dedans, c'était c'est toi qui fais ça, toi tu vas dire ça, moi je vais dire ça, boum. Oh, je me retrouvais en direct en me disant, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, tout. Bon, mais la magie, dès que Guy et moi nous étions à l'antenne, alors qu'on ne se voyait pas trop en dehors de l'antenne, parce que bon, il avait un caractère un peu particulier, je l'aimais beaucoup, je tiens à le préciser, dès qu'on était ensemble à l'antenne, je ne sais pas, il y avait une complicité,
naturel,
on s'entendait formidablement bien. Donc voilà.
Et vous l'avez dit, donc, avec le grand orchestre de Raymond Lefebvre. Voilà, c'était là. Donc...
Quel souvenir formidable.
Le générique de Cadet Roussel, pour le coup.
C'est bien possible. Alors,
ouais,
ça,
oui.
Vraiment...
Enfin, c'est indiqué comme ça.
Peut-être.
C'était quoi d'ailleurs cette émission Cadet Roussel ?
Cadet Roussel, bah, c'était trois chansons, trois machins, etc. Mais on a fait assez peu Cadet Roussel, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de grèves, déjà à l'époque. Je voulais juste dire un mot sur Raymond Lefebvre. C'était un être d'exception, professionnel, gentil, qui s'énervait jamais. Et quand par hasard, il y avait un artiste, même une star, j'ai vu des stars se tromper de paroles ou dans la musique et tout, il était là avec ses 40 musiciens, tout le monde le suivait, mais je me disais, c'est magique, c'est un magicien, quoi. Il était toujours gentil, toujours de bonne humeur. Enfin voilà, j'avais envie.
Mais je le vois encore enfant à la télévision. Oui, voilà, c'est ça. J'avais envie de lui rendre hommage. De diriger, vous avez bien raison. Moi, j'aime beaucoup aussi ces grands chefs d'orchestre dont on ne connaît pas toujours le nom, qui sont un peu à l'arrière-plan. Même si Raymond Lefebvre, lui, était quand même une vraie, vraie vedette.
Il avait vraiment de gros succès musicaux. Il a écrit des chansons, je crois, qui ont très bien marché.
Vous vous êtes vite trouvé à l'aise devant la caméra.
Ah oui, j'ai adoré ça tout de suite.
Ah oui, c'est ça.
Et puis, comme Guy Lux me faisait beaucoup chanter, en fait, puisqu'avant, il avait une journaliste, encore avant, il avait donc Anne-Marie Besson. Oui. J'étais la première qui pouvait faire des imitations dont il avait envie.
Voilà, mais... vous étiez à la fois fantaisiste, voilà, chanteuse, ça, présentatrice.
Sauf que ça se décidait à la dernière minute, et que parfois je voyais Raymond Lefebvre la veille, et qu'il y avait quand même 40 musiciens, c'est pas juste un piano. Donc, c'était à chaque fois du sport. On se disait, bon, ben voilà, ça se passait. Bien.
Il y a eu des émissions, je retrouve ça en préparant notre entretien, plus étrange même encore, dont une par exemple en 77 qui s'appelait Le Taxi en or.
Ah oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'est...
C'était comme un téléfilm mélangé avec une émission.
Exactement.
Quoi.
Alors là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a tourné ça dans les studios de Boulogne. Et comme on avait assez peu de budget, en fait, on tournait jour et nuit. C'est-à-dire que, je me souviendrai toujours de ce détail, c'était Barrier, Georges Barrier qui réalisait l'émission. Moi, j'étais là depuis la veille au matin, et à 3h du matin, on est en retard, gros plan sur Sophie Darel. Ça faisait je ne sais combien d'heures que j'étais là, et boum, gros plan. Et donc, c'était hallucinant. Et
vous étiez la femme de Guy Lux dans le film, non?
Non, j'étais femme chauffeur de taxi.
Ah, femme chauffeur de taxi.
Voilà, donc j'amenais des vedettes, etc., etc., voilà. Alors ça, je ne sais même pas si ça a été diffusé un jour. Mais ça a été dans des conditions hallucinantes. Et il y avait un grand film qui se tournait à côté, avec des stars. Et en fait, il y a un assistant qui s'est trompé. C'était une scène, je crois que c'était Marthe Keller, etc. C'était une scène d'enterrement. Et en fait, l'assistant, je ne sais pas quoi, est rentré avec des fleurs et tout, en disant « on tourne dans 5 minutes ». Et là, ça a fait un drame sur le tournage, évidemment, parce que ce n'était pas la même ambiance.
Et l'Olympia, alors, c'est arrivé comment ?
La première fois que j'ai fait l'Olympia, c'était en tant que présentatrice.
Voilà. Mais associée à la télévision et à Guy Lux, je pense.
Non, j'étais pas encore avec Guy Lux, là. Je faisais des petits bouts de chansons, je faisais des petits bouts de sketch. Et bon, je faisais le petit chapeur en rouge. Et Henri Salvador avait accepté de me faire des bandes et tout, des gags qu'on lançait pendant que je présentais, voilà.
Ah oui, voilà.
Oui, donc j'ai des photos à la maison où je suis avec un petit panier habillé en petit chapeur en rouge.
Voilà, vous avez présenté pas mal de vedettes de l'époque, oui, hein, les compagnons de la chanson, Françoise Hardy, tout ça.
Bah, Françoise Hardy qui était d'ailleurs au Petit Conservatoire, avec Mireille. Absolument.
Il y a un autre personnage, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'avais envie qu'on évoque, parce que c'était une idole de l'époque de mon adolescence. Il est peut-être un peu oublié des jeunes générations, mais je crois que vous l'avez bien connu aussi.
Oh, sur un monde sans frontières.
Je crois que les cœurs des jeunes filles de
l'époque vibraient là
parce que
c'est vrai, c'est un joli souvenir.
L'idole,
voilà. Ah bah c'est une idole, mais moi j'en voulais pas.
En 1973, ici.
Moi j'en voulais pas, il voulait me séduire, puis je me disais...
C'est vrai ?
Mais oui.
Vous l'aviez rencontré comment ?
Bah à la télé, bien sûr. Je l'ai présenté plein de fois à la télé. Donc il me faisait une cour assidue, il disait mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus de charme avec son bel accent. Et quand il appelait à la maison, il tombait sur ma maman. Il essayait de changer sa voix et son accent. Il lui disait, vous fatiguez pas, je vous ai reconnu, monsieur Mike Brandt. Donc, joli souvenir. Bon, et ça m'avait beaucoup choqué, comme tout le monde, évidemment. Mais quand il s'est suicidé, parce qu'après, il y a eu tout un... Enfin, bref, il y a eu des gens qui l'a fréquenté, qui ont beaucoup perturbé sa vie, certainement. Mais il était tellement joyeux. Il faisait des gags tout le temps. Moi, quand je l'ai connu, pour moi, c'était quelqu'un de joyeux. Ouais. Et en fait, on a découvert que...
C'était un dépressif.
Bah oui.
Par certains aspects, en tout cas.
Oui, oui, enfin bon, il y a eu... Enfin, tout ça est un peu compliqué quand même, hein. Voilà.
Voilà.
Mais, vous avez... Mais c'est un joli souvenir.
Ben oui, vous, au fond, vous avez connu tout le monde un peu à la place d'honneur, comme ça, c'est toujours intéressant, parce que ça
s'approche
avec...
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que Mike Brandt représente, c'est un mythe au-delà du chanteur, quoi. C'est, je sais pas, c'était quelque chose d'extraordinaire.
En tout cas, il faut le dire, Sophie Darel, il ne vous attirait pas. Et d'ailleurs, vous êtes assez apparemment fidèle en amour, puisque l'homme qui partage votre vie aujourd'hui, je l'ai retrouvé dans des articles déjà il y a très 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 longtemps. Vous parlez
déjà
de livres. Il était votre photographe à l'époque.
Oui, c'est vrai. Hein,
il s'appelle Jacques Anaclet.
Ben oui, figurez-vous, vous êtes toujours là.
Et
vous...
voilà, il est toujours là.
Ça marche entre nous.
Mike Brandt n'a rien pu y faire.
Ah ben non, Jacques n'était pas là à l'époque de Mike Brandt.
Ces années télévision, donc, ce sont bien sûr de très beaux souvenirs, j'imagine, Sophie Darel. Mais est-ce que vous êtes restée liée avec Guy Lux par la suite, puisque c'est lui qui vous avait vraiment mis le pied à l'étrier ou...
Ah oui, oui, parce qu'en fait, il y a eu toutes les grandes émissions, effectivement, où je vous le disais tout à l'heure, on ne se voyait pas trop entre les émissions, parce que déjà, c'était une telle tension, il était tellement nerveux que je n'avais pas trop envie, en dehors des émissions, de le voir.
C'est ça, il avait un sale caractère parfois.
Ah
travail,
oui, on peut le dire. Oui, il avait un sacré caractère, on va dire comme ça.
Sacré, d'accord.
Mais très grand professionnel. Mais comme après, on a lancé, enfin, il a lancé d'autres émissions dans lesquelles j'étais, La Classe, qu'on a créé quand même. Donc, il y a eu comme ça plein d'émissions qui duraient. Bon, qui après faisaient leur chemin sans lui, mais on s'est revus plein de fois pour d'autres émissions, en dehors de toutes les 20h30 que j'ai fait avec lui. Et puis, de toute façon, on a continué à le voir, Jack et moi, à
même au-delà de la télévision.
Ah oui, au-delà de la télévision, surtout quand il a commencé à être âgé. Ouais. Ça a été terrible parce que les gens de ce milieu ne voulaient plus le recevoir. Il essayait d'avoir des rendez-vous plus
Et après avoir été le roi...
Je trouve que c'est d'une cruauté, mais c'est vraiment terrible, terrible. Et donc, on le voyait beaucoup à ce moment-là, surtout quand il a été malade. Moi, je l'ai envoyé chez des toubibs qui l'ont un peu aidé. Bon, souvent, la fin, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la vie, mais ça dépend. Lui, ça...
C'est pas été facile.
Ouais, vraiment.
En tout cas, Sophie Darel, voilà, on a évoqué la chanson, la télévision, l'Olympia également. Mais il y a quelque chose de singulier que vous avez déjà aussi abordé rapidement, c'est l'imitation. Parce que ça a joué un rôle important, d'ailleurs, notamment dans toutes ces émissions de télévision. Mais vous avez été en fait un petit peu une pionnière. Parce que les grands imitateurs de l'époque, c'était d'abord Thierry Leluron, c'était à peu près tous des garçons.
Oui, c'est vrai. Hein? Mais après, il y a eu plein de garçons qui imitaient les filles aussi.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est pas juste.
Et vous avez été une des premières femmes.
Oui, sans doute. Il y en avait peut-être eu avant, mais enfin,
vous aventurez dans le jeu de l'imitation.
Ben, c'est-à-dire que j'étais une des premières qui pouvait en plus s'exprimer à l'antenne dans une très grosse émission. Donc, effectivement, ça s'est remarqué. Quoi.
Ouais, vous étiez assez douée pour ça.
Ben, oui,
ça se travaille, j'imagine.
Oui, c'est d'abord un don, parce qu'on ne peut pas décider d'être imitatrice comme ça. Moi, je faisais beaucoup d'imitations chantées, parce que comme je suis chanteuse, c'est évidemment ce qui m'attirait le plus. Mais il faut quand même avoir un don, quoi. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. C'est pas... Mais vraiment, j'ai adoré ça avec Patrick Sébastien, où j'ai fait Anne Sinclair.
Patrick Sébastien, vous avez je ne sais pas si vous l'avez découvert, mais enfin, vous l'avez un peu lancé.
C'est moi qui l'ai amené à la télé. J'ai fait faire sa première émission, en fait, hein, où je faisais Dalida et lui, Joe Dassin, faisait un duo. Et c'est à ce moment-là, je le raconte souvent, que Guy m'a dit « Ton imitateur ne fera jamais rien », comme quoi il est bon de ce côté-là.
Il n'était pas visionnaire. Thierry Leluron.
Thierry Leluron, avec lequel j'ai fait beaucoup de duos.
Oui.
Moi, je m'entendais très, très, très bien avec Thierry. On faisait des duos d'opérettes. On adorait ça, parce qu'il adorait chanter comme ça. Voilà. Mais alors, j'ai pas de documents, sinon j'aurais été ravie. Ah oui, en télé, on faisait Merkès et comment il s'appelait ?
Et Paulette Merval.
Voilà, ouais, on faisait ça tous les deux. Et on adorait, c'était vraiment super sympa. J'adorais.
Yves Lecoq.
Yves Lecoq, avec lequel j'ai fait des duos aussi. Voilà. Et on a fait l'Olympia aussi. Et là, on faisait des duos un peu insolites avec Lecoq. Je faisais Barry Laforêt. Viens,
excellente imitation. Et dans le même disque, il y a le Giscardéon.
Voilà, c'est ça exactement.
Alors, comme j'avais déjà passé un extrait de ce 45 tours, là, j'ai passé autre chose. C'est plus inattendu peut-être, mais j'ai trouvé ça très drôle. Parce qu'il y avait à l'époque une célèbre publicité sur la mère Denis à la télévision.
Oui, j'avais fait un duo
et
aussi.
Et avec Serge Bocara.
Voilà, qui malheureusement est mort d'une crise cardiaque il y a quelques mois.
Ah oui.
Oui.
Vous avez fait Mémé Denis.
Voilà, et c'était rigolo en fait, parce que Mère Denis, je crois que même encore aujourd'hui, on se souvient de Mère Denis.
Voilà, qu'il avait du linge.
Oui, c'est ça. Absolument. Qu'il avait plus blanc en gros.
Qu'il avait plus blanc, et voilà Mémé Denis par Sophie Darel et Serge Bocara.
Allô Johnny, c'est Dali. Alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que je suis libre. Je pourrais être ton frère, ta mère. Ou ta grand-mère, je suis là.
On voit tous quelque chose en vous de Mère Denis. Cette volonté de laver à tout prix. Ce désir fou de chasser les bactéries. Ce rêve en vous qui fait que tout rétrécit. Quelque chose de Mère Denis. Cette force qui vous pousse en buanderie. Un peu de poudre avec de l'eau bouillie. En peu de temps, tous les draps sont blanchis. Quelque chose en vous de Mère Denis.
Alors là, Johnny, je serai très contente que tu viennes à la maison. Parce que quand il y en a pour 11, il y en a pour 12. Et pour le cadeau qu'il y a dans la lessive, je m'arrangerai pour le mettre de côté. Je t'embrasse, c'était Mireille.
Ainsi vivait Mère Denis. Les mains dans l'eau et les doigts rabougris. Avec cette formidable envie de lessive. Son rêve à elle, c'était une blanchisserie. Quelque chose de Mère Denis.
Allô, c'est Jen. Tu sais, Gainsbourg, il veut même plus laver son chaussette. C'est une horreur. C'est comme Rick Azaray. C'est le sandwich, pas les blondes.
On a tous besoin de Mère Denis. Cette volonté de laver à tout prix. Ce désir fou de chasser les bactéries. Ce rêve en vous qui fait que tout rétrécit. Quelque chose de Mère Denis.
Oh là là, Johnny, t'es formidable. Tu sais, les filles, elles sont folles. Il suffit qu'un type, elle leur propose 2 barils pour 1. Elles partent avec, c'est dingue. Moi, je quitterai jamais une bête de scène. Oh là là.
Quelque chose de Mère Denis.
Oh là, ça c'est vrai ça. Oh, Birgit-Moisette, tu transpires, tu t'excites là, t'es tout en sueur. C'est pas bon ça. Et une propreté comme celle de Johnny, eh ben ça s'échange pas.
Oui, quelque chose de Mère Denis.
Oh là, ça c'est vrai ça. Faut dire qu'une vedette comme ça, bah, ça mérite sa confiance.
Quelque chose de Mère Denis.
Ah, ça c'est vrai, ça.
Je redécouvre des choses, j'avais complètement oublié.
1986, je trouve ça formidable. Il est bon aussi, Serge
Boccara. Oui,
bah,
je suis ravie qu'on puisse parler de lui, parce que c'était un très bon imitateur, qui malheureusement n'a peut-être pas eu trop de chance dans ce métier. Il faut dire que c'est quand même très difficile. Et donc, il n'a peut-être pas eu la chance qu'il aurait dû avoir. Donc, c'est bien qu'on puisse parler de lui aujourd'hui.
Et puis vous, alors dans vos rôles, je ne sais pas si c'est vos rôles favoris, mais Dalida, Mireille Mathieu, Jane Birkin, Brigitte Bardot.
Oui, tout y est là.
Elles appréciaient toutes ces dames d'être invitées par vous ?
J'ai jamais eu de problème. Non, personne ne m'a critiqué.
Mireille Mathieu, c'était une de vos spécialités.
Ah oui, je fais toujours. Mon Dieu, que je suis contente. Bah, alors là, vraiment, alors ça me fait plaisir. Alors Benoît, si tu savais comme je suis contente, alors...
Ah ben, c'est bien que tous ceux que j'ai pas pu inviter, comme ça, il faudra qu'on fasse des émissions, comme ça vous viendrez.
Peut-être venir toutes les semaines, ça peut être sympa. Moi, je me plais bien ici, donc ça tombe bien.
Sophie Darel, donc excellente imitatrice, est toujours prête à relever le défi, mais sauf que bon, voilà, après toutes ces années musique, showbiz, télévision, est arrivé encore un autre métier, c'est le théâtre.
Ah oui.
Vous avez joué dans un certain nombre de pièces.
Ah, j'ai fait beaucoup de pièces.
Hein.
Oui, mais bon, c'est ce que je voulais faire.
Coup de foudre.
Oui, c'est ça.
Au pied levé avec Christian Marin.
Ouais, j'adorais ça, Christian Marin.
Il était sympathique, Christian Marin.
Oui, extra, extra. Mais je voulais être comédienne, vous savez, au début.
Au départ, oui.
Voilà, au départ. Donc après, j'ai bifurqué assez longtemps et puis boum, je me suis retrouvée au théâtre grâce à Evelyne Leclerc parce que la première pièce...
Vous l'aviez connue à la télé, j'imagine ?
Evelyne, non, je la connaissais depuis très 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 longtemps. Ah oui ? On se connaissait, je ne sais pas si c'est de la télé, mais on se connaissait depuis très longtemps. Et elle m'a dit, oh bah tiens, il y aurait peut-être un rôle pour toi dans cette pièce de théâtre. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première pièce, qui était donc Coup de foudre.
Coup de foudre, voilà, c'est ça.
Puis après, bah, j'en ai enchaîné plein. J'ai pas tout le...
Oh, y en a qui m'impressionnent, parce que ça c'est pour moi un personnage... mythique, le mot est peut-être fort, mais j'aurais bien aimé connaître, c'est Pierre Doris.
Ah, Pierre Doris, ah oui, oui.
Dans alors, le centenaire, le avec centenaire. Pierre Doris et Bernard Mabille.
Voilà, ben oui, c'est ça, on avait joué avec Bernard. Bon, évidemment, le souci qu'on a eu avec, Pierre Doris, c'est qu'il avait des gros soucis de mémoire.
Ah oui.
Donc, des fois, on sautait un acte, carrément. Alors, on se disait sur scène, ah ben ça y est, tiens, on est déjà à la fin. Ça a été vite, la pièce s'est jouée beaucoup plus vite que d'habitude. Bon, sinon, lui aussi, c'était une nature.
C'était
un personnage. Il avait créé quelque chose de particulier dans son humour noir.
Oui, c'est ça.
Et puis, il était vraiment très amusant dans la vie aussi, c'est vrai. Oui, oui, c'était bien, Pierre Doris, bien sûr. Ouais, absolument, beau souvenir aussi.
Le théâtre est devenu aujourd'hui votre activité principale, j'ai envie de dire. Hein.
Je chante aussi. Enfin, je fais encore beaucoup, beaucoup de spectacles parce que j'ai co-présenté pendant pratiquement 17 ans les élections des super mamies.
Ah oui.
Où parfois les mamies étaient infiniment plus jeunes que moi. Ça m'énervait, mais c'est comme ça. Avec Fabienne Ollier qui avait lancé. Donc, à chaque élection, je faisais un spectacle d'imitation pendant les délibérations. Donc, en fait, j'ai jamais arrêté de faire mon spectacle en scène. Et c'est pour ça que depuis un an, je ne fais plus rien.
Voilà, mais en tout cas, pour ce qui est de la question des super mamies et des années qui passent, il suffit de citer quand même les titres de vos deux livres pour voir que la question vous intéresse et vous y réfléchissez. Moi, vieillir plutôt crever, c'était en 2016. Ouais. Et plus optimiste, le dernier, Objectif 100 ans en pleine forme.
Oui, alors ça, évidemment, le premier titre, ce sont des livres que j'ai écrits avec Jack Anaclay, parce que moi, j'ai quelques idées, heureusement, même pour une blonde. Mais c'est lui qui a le talent, surtout d'écriture. Donc, en fait, ce titre nous amusait beaucoup. Moi, vieillir plutôt crever, c'était pour nous du troisième degré. Et en fait, on s'est aperçu que quand j'ai commencé à faire des dédicaces, dans les salons du livre et tout ça, je voyais des gens qui me disaient « Mais pourquoi vous dites ça ? Moi, je n'ai pas du tout envie de mourir, je préfère vieillir. » Et je me suis dit « Bon, on est passé complètement à côté, pour nous, c'était un gag. Moi, vieillir plutôt crever, bien sûr qu'au premier degré, ça ne veut rien dire, hein, évidemment, mais bon, ça, ce n'était pas une bonne idée. En revanche, le deuxième, je pense que c'était bien, parce que là, Objectif 100 ans en pleine forme, on donne vraiment des conseils dans tous les domaines, des recettes dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il y a énormément de médecins qui sont intervenus, en fait, pour chaque spécialité.
Donc, il faut faire attention à tout, faut pas manger, faut pas faire d'excès.
Oh, bah alors là, c'est sûrement pas mon truc à moi. Alors, moi, j'adore la vie. j'adore bien manger. Non, pas du tout.
Ah bon, on peut arriver à 100 ans.
Oh oui, bah écoutez, je sais pas, j'y suis pas encore, hein, mais je vais essayer en tout cas.
Voilà. En tout cas, Sophie Darrel, voilà, vous ne manquez pas d'activité. Et vous avez aussi, voici quelques années maintenant, enregistré alors, tout un disque de duo.
Oui. Hein. Ah oui, oui, j'ai fait plein de duos. Oui,
ça s'appelait Mes Années Bleues.
Oui, Les Années Bleues, parfait. Donc, est-ce que vous êtes bon, vous, alors? Ah, si, 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 c'est
avec
bien.
Avec tous
bravo,
vos amis.
Bravo, ben,
alors, il y a Guy Marchand, il
oui.
y a
Sacha Distel, il y a tout
Carlos,
Pierre
etc.
Perret, voilà, Pierre enfin, Perret. Plein. Et c'était, bon, c'était assez original.
C'était plutôt des reprises, donc, de
ah,
chansons
Ah oui, c'était que des chansons
hein, voilà.
connues. C'est-à-dire qu'on était parti des années après-guerre, de la dernière guerre, jusqu'aux années 60-70. En fait, voilà. C'est pour ça que l'album se terminait par une imitation de Liza Minnelli. Donc, c'était un petit tour d'horizon. Et j'avais fait un spectacle à Paris, au théâtre de 10 heures, qui s'appelait 50 bougies dans le boogie, où j'avais des musiciens de jazz avec moi. Voilà. Donc, mais c'était très amusant de faire les duos. Moi, j'adore ça.
Oui, je vois que vous aimez ça. Soit en ouais. humour ou en chanson,
ouais,
vous êtes la femme du duo.
On
hein.
se complète, en
voilà,
fait. J'ai fait des duos à la télé avec Guy Lux, un peu avec Patrick Sébastien. Enfin, Patrick était beaucoup plus seul qu'avec moi. Mais moi, j'aime bien être en duo. Vous voyez, moi, j'adore être avec vous à l'antenne.
Ben voilà,
je trouve que c'est très amusant.
Duo,
voilà. J'aime bien.
Et Sacha Distel?
Sacha Distel, bon, bah, ça aussi, c'est un joli souvenir. Sacha, bah, c'est aussi pour ça que j'ai enregistré avec lui Le Temps des Cerises, parce que j'adore cette chanson que ma mère chantait. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment une chanson magnifique. Il l'a faite, mais c'est un petit bijou comme il l'a chantée, vraiment. Hein, j'adore.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Mais il est bien court le temps des cerises où l'on va par deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Moi qui ne crains pas des peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
J'aimerais le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais.
Sophie Darrel avec Sacha Distel, c'est un disque de 1995 qui s'appelait « C'était les années bleues ».
Oui.
Voilà, vous avez repris cette chanson que vous adorez, c'est vrai que c'est joli.
Ah oh ben, je trouve que c'est une magnifique
excellent
chanson.
Excellent, et regretter Sacha Distel.
Ouais, c'est vrai. Il était adorable en plus. Donc,
c'est vrai.
Ouais, très très gentil. Je suis partie en tournée avec lui avant de faire de la télé. Et bon, bah, c'était super de travailler avec lui.
Vous avez rencontré plein de gens gentils dans le showbiz. Il devait y avoir des méchants aussi.
Oh oui, il y en avait, mais je ne vous le dirai pas.
Je ne vous dirai pas les noms.
Je ne vous donnerai pas les noms.
Ce disque, il avait été édité en 1995 chez AB Productions. Absolument, et aujourd'hui, oui. Vous préparez alors une espèce d'intégrale
Sophie
Darel.
Alors là, c'est un retour, mais je vous raconte même pas. 3 albums qui vont sortir en même temps.
Voilà. Mais... Chez, alors, il faut dire, c'est chez Marianne Mélodie, l'excellente maison de disques qui fait tant pour la chanson française.
Oui, c'est
avec
très agréable,
Mathieu Moulin, que j'ai reçu souvent ici.
Oui.
Et alors, vous avez concocté, c'est pas une intégrale, mais c'est un best-of, on va dire.
Pratiquement. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi, c'est lui.
Oui.
Et il m'avait dit au départ, on va faire un album avec les principaux titres. Après, il m'a dit, oh, bah, va peut-être rajouter les duos. Puis après, il m'a dit, bon, bah, voilà, je t'annonce, il y aura 3 disques.
J'ai dit, 3 CD. Là,
3 wow. CD, vous vous rendez compte? Oui, c'est plus des disques, c'est des CD. Enfin, quand même.
Voilà.
Donc, bah, c'est pour moi, on verra bien, mais c'est très intéressant, très amusant pour moi de faire ça. Voilà,
voilà,
ça
on va pouvoir
beaucoup.
Retrouver bah, beaucoup de ces
chansons. Vous me réinviterez peut-être.
Ah, bah, et comment,
ça va, oui. Ah, oui, on va voir, ça fait peut-être beaucoup quand même.
Ah non,
bah, ah, bon
avec vous, c'est porte ouverte.
Non, ah, ouais, bah, c'est gentil, merci.
Dans les années 60, tous ces disques, on va les retrouver justement,
oui,
ces 45 tours,
oui,
qui
tout
se sont succédés
notamment.
Vous avez
notamment, la gentillesse de passer aujourd'hui. On va
oui, j'ai vu d'autres chansons que j'avais envie de passer. Une qui s'appelle Enfant de Bohème, par exemple, très belle chanson.
Ah oui, je l'ai oublié aussi. Ouais.
Ah, vous voyez,
je suis obligée de revenir. Alors là, vous n'avez pas le choix en définitive.
Et donc la pièce de théâtre, donc on espère qu'elle va reprendre bientôt.
Bien.
Ça s'est passé au théâtre.
Ça s'est passé en province pour l'instant. On était dans le Nord en fait. Voilà. On a répété dans le Nord. On a joué dans le Nord très peu de fois et nous avions énormément de dates. En fait, quand on est démarré il y a un an, on était parti jusqu'à presque fin 2021. Mais bon, il y a beaucoup de comédiens et beaucoup d'artistes qui sont dans cette situation. Je voudrais dire d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans une situation absolument désespérée.
Ouais.
Je pourrais même dire qu'on n'en parle peut-être pas trop, parce qu'on parle beaucoup des restaurants, et heureusement, parce qu'ils ont du personnel, ils ont plein de gens,
bien
etc.
Sûr,
mais il y a les artistes qui ne vivaient que de ça, de manifestations, et qui ne peuvent plus jouer. Et il y a vraiment des comédiens qui déjà gagnent très mal leur vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à part les stars. Les comédiens, j'allais dire, c'est presque un métier de misère, ouais. Et qui tout d'un coup ne peuvent plus jouer. Donc voilà, alors moi j'ai la chance de pouvoir faire autre chose, mais il y en a pour qui c'est dramatique.
Et vivement, en tout cas, bah, qu'on vous retrouve tous les trois avec Evelyne Leclerc et Daniel Gilbert.
Ah oui, c'est une équipe très joyeuse.
Amis sur la scène comme dans la vie.
Ah oui, on est très copines. Oh, oui. On ne se dispute pas du tout dans la vie, absolument pas. On s'aime bien depuis toujours.
Vous chantez pas sur scène?
Non, pas trop. Non. Bon. Peut-être que je vais chanter, on va voir.
Bon.
Peut-être que la pièce va changer d'ici qu'on la rejoue. Alors, comme ça ne va pas être cet été non plus, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà.
Sophie Darel, merci en tout cas d'être
revenue
nous voir ce matin. Alors j'avais envie, parce que vous m'avez fait plein d'autres propositions de morceaux.
Des propositions honnêtes.
Oui, très
bien. Ah bon, ouf, super.
Justement, j'hésitais à employer une proposition de morceaux de musique.
D'accord.
Avec des quantité que j'avais envie de réentendre, et notamment on va finir avec celui-là si vous voulez.
D'accord.
Bien, parce que je crois que vous l'aimez spécialement, Le vieux piano de la plage par Laurent Voulzy.
Ah ouais, j'aime beaucoup Laurent Voulzy
qui
est un ami, et puis alors j'avais adoré son interprétation. Oh, c'est super, alors là quelle bonne idée, merci Benoît, merci beaucoup Benoît, je vous embrasse, merci beaucoup.
Voilà, merci Mireille, merci Sophie Darel.
À bientôt, en tout cas c'est un vrai plaisir d'être avec vous, merci
avec
Benoît.
Nous, ce matin, à bientôt.
Merci.
Le piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai, ainsi cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un do brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur, d'une petite chambre mon joli cœur, du mois de septembre. Je pense encore, encore à toi, Domicila. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser samedi, dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. C'est alors que je sors tout court battu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblant, ému, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu piano, tu sais combien peuvent être cruelles ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur, ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine de mon heureux sort ou de mes peines. Lorsque tu tapes, tapes toute la semaine, mais le samedi, quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque, et qu'un beau soir passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, s'arrêtera là et sera triste en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans.
Très belle version du piano de la plage par Laurent Voulzy, Charles Trenet. Donc très à l'honneur aussi ce matin. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver un documentaire qui lui est consacré vendredi à 21h sur France 3. Quant à Sophie Darel, mon invitée, bien je vous recommande de lire son dernier livre, Objectif 100 ans en pleine forme, aux éditions Ramsay. En attendant, espérons-le, la reprise de sa pièce Les Trois Glorieuses avec Daniel Gilbert et Evelyne Leclerc.
Thank you.
l'excellent Léo Delibes dans La Source, qui fut son premier grand ballet avant Coppelia et Sylvia. Il l'avait écrit en 1866 avec Ludwig Minkus, qui a écrit une autre partie de la partition, mais le meilleur, c'est quand même ce qu'a fait Léo Delibes, comme par exemple cette marche dansée et finale de l'acte 2 qu'on vient d'entendre par le Royal Scottish National Orchestra sous la direction de Naim Yervi.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour terminer cette matinée, je vous propose un peu d'opérette viennoise. Un des grands maîtres de l'opérette viennoise qui était Heinrich Kallmann, viennois mais aussi grand ami de la France, où il s'est d'ailleurs réfugié en 1938 et où il a fini ses jours après la guerre. Heinrich Kallmann, on le connaît évidemment pour Princesse Xarda sous Comtesse Maritza, mais justement, en 1930, il a également composé une opérette très parisienne. Elle s'intitule Violette de Montmartre. Elle fut donnée d'abord dans la version allemande et puis même à Paris, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors je vous propose d'entendre le grand Jussi Björling dans un des airs magnifiques de cette Violette Montmartre, Violette de Montmartre de Kallmann.
Out it for day. Kinna, mit ihr Kaskalbrinna, den Bilder wie Glöck. Wenn in a Ort bin ich ehrlich an Nega, komm ja Bille Sega, was für mich gern. Ja blieb für Elf, när jag såg dig första gången, och av din skönhet var jag arme man, och genast fången. I natt, min älskade, jag drömde blott om dig. Min älskade som aldrig var mot mig, och framför dig du stod som dig min längtan stets vill ha. Och om min enda kyss jag bad, och du sade ja.
Le grand Jussi Björling, quelle voix merveilleuse dans Das Weilchen von Montmartre, Violette de Montmartre, donc de Kallmann, un enregistrement de 1931. Et il faut dire que Kallmann aussi, comme beaucoup de compositeurs viennois d'opérette, adorait les sujets français. C'est pourquoi quelques années plus tard, une de ses dernières œuvres, créée en 1936 à Zurich, s'intitule tout simplement L'impératrice Joséphine. Et je vous propose de retrouver le duo entre Napoléon, bien sûr, et Joséphine, avec encore un très grand ténor, Fritz Wunderlich.
Du bist die Frau, die mein Herz
doch ein Lächeln hat mir schon verziehen. Du bist die Frau, die mein Herz sich ersieht. Du bist der Zauber, der geheimste Wünsche trägt, deines
Fritz Wunderlich en duo avec Anne-Marie Henning dans ce duo, extrait donc de la princesse, de l'impératrice Joséphine, pardon, opérette d'Emmerich Kallmann, une de ses dernières opérettes avant son exil en France, puis aux États-Unis, puis son retour en France parce qu'il était tellement attaché donc à notre pays que c'est à Paris qu'il a terminé ses jours et qu'il est mort en 1953. Et je connais d'ailleurs sa fille et son petit-fils qui sont très attachés à ces liens de Kallmann avec la France, même si notre pays malheureusement dédaigne un peu trop aujourd'hui les opérettes de ce grand musicien. 1953, c'était la mort d'Emmerich Kallmann, mais c'était aussi l'année où mon cher Errol Garner enregistrait, pour finir joyeusement l'émission, cet excellent titre intitulé Groovy Day.
Thank you.
Ah, Errol, cher Errol Garner, vous m'enchantez toujours autant avec vos deux mains qui virevoltent sur le piano, la main gauche toujours un peu décalée de la main droite, c'est vraiment irrésistible. Errol Garner et son trio en 1953 dans Groovy Day. Et moi, bah, donc, il vous, me reste à vous souhaiter à tous pour ce week-end et notamment pour ce samedi, chers auditeurs, un très bon Groovy Day. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil et YouTube Diego Aclopès, réalisation Christine Amado. Et samedi prochain, je vous l'ai dit, nous avons rendez-vous avec Christian Bonneau pour évoquer ce grand musicien que fut son père, compositeur, chef d'orchestre, arrangeur, Paul Bonneau. Ce sera le sujet du prochain Étonnez-moi Benoît. Mais d'ici là, eh bien, vous avez maintenant tout de suite rendez-vous sur France Musique avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.